des livres plein les oreilles. Bonjour, bonjour tout le monde. Clotilde Sey en votre compagnie pour vous présenter cette émission dédiée aux livres audio qu'on peut entendre à CKVL, qu'on peut entendre bien sûr sur les ondes de Canal M qui produit cette émission, mais également en balado dès que c'est en ligne. Mon invité cette semaine en première partie, Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, j'ai toujours trouvé qu'il avait, ou qu'il a d'ailleurs, qu'il a toujours la véhémence des empereurs, cette éloquence des meilleurs tribuns, cette vivacité d'esprit unique. Et bon, je me suis dit, Mathieu Bock-Côté, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne partagent pas son avis, évidemment, ni ses opinions, ni ils ne sont pas du même bord. Parfois, il se fait juger, pointer du doigt, fustiger. On le bannit même parfois de nos lectures quotidiennes. Mais je me suis dit, lorsqu'un homme comme cela s'exprime sur un sujet aussi contemporain que le racialisme, une idéologie qui est, il va nous l'expliquer, beaucoup plus scientifique et intellectuelle que ne l'est le racisme primaire, il faut l'écouter. Le racialisme, c'est peut-être pour vous un concept difficile à comprendre, alors ne vous inquiétez pas, Mathieu Bock-Côté va vous éclairer. Son livre s'appelle « La révolution racialiste et autres virus idéologiques ». Ça vient de sortir sur papier et en audio, et c'est lu par Mathieu Bock-Côté lui-même, il est passé en coup de vent entre deux avions, entre deux émissions et deux chroniques ici dans nos studios, pour nous parler de ce bouquin assez important pour faire la une du Figaro récemment en France. Alors je vais m'entretenir avec lui et en seconde partie, tout un programme aussi, alors que vont s'ouvrir prochainement à la mi-mai les premières rencontres francophones du livre audio. Nous allons rencontrer Céline Palinzinski qui est à l'origine de ces premières rencontres-là. Alors tout de suite, on va l'entendre, Mathieu Bock-Côté, et vous allez voir, vous allez l'entendre, la table est mise.
Non, sire, c'est une révolution. Ce n'est pas d'hier que des campus américains passent pour des asiles à ciel ouvert. Mais il était d'usage chez les gens qui se voulaient raisonnables de les regarder avec une distance amusée, en se disant, de très loin, qu'ils sont fous, ces Américains. Il n'en est plus ainsi. On ne rit plus devant leur délire, et les aberrations qui en sortent ne sont plus traitées comme des faits divers, mais comme des symptômes d'un mal plus profond. Leur univers mental s'est déconfiné et est désormais au cœur du débat public des sociétés occidentales. Une mouvance nouvelle, une nouvelle gauche religieuse américaine, la gauche woke, qui se veut éveillée, éclairée par la révélation diversitaire, et qui fait de la race la catégorie sociologique et politique la plus importante, multiplie les grandes processions au cœur des capitales et métropoles des deux côtés de l'Atlantique en scandant des slogans décoloniaux pour qu'enfin s'effondre le vieil Occident qui croulerait sous le poids du racisme systémique. La reconnaissance de ce dernier serait désormais impérieuse. Cette théorie devrait dorénavant être considérée comme le point de départ à partir duquel construire une société inclusive. On ne devrait plus débattre de la valeur de cette théorie, mais débattre obligatoirement à l'intérieur de ses paramètres qui baliseront la conscience collective. L'Occident serait raciste, qui n'accepte pas ce point de départ ne devrait plus être convié dans la conversation publique.
Et voilà, c'est dit. Bonjour Mathieu Bock-Côté.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Êtes-vous encore en France ou êtes-vous revenu?
Oui, jusqu'à samedi, je termine mon séjour, ma tournée de promotion du livre, comme on dit.
Oui.
Donc je reviens à Montréal samedi. Et
bon.
Ensuite, deux semaines de quarantaine et ensuite la vie reprend.
Bon, alors, les Américains considèrent vraiment les Français comme des tweets lorsqu'on parle de racialisme, mais vous, les Français, vous ouvrent les portes en grand en ce moment, Mathieu Bock-Côté.
Oui, ben, je suis, depuis quelques années, mes livres trouvent un bel écho ici.
Oui,
hein. Pas comme ça, j'en suis honoré. Je chronique chaque samedi dans le Figaro, donc mes idées ont un certain écho dans l'espace public français. Pour moi, c'est un privilège. Pour ce livre-là, je crois que c'est qu'il met le doigt, de tout le moins c'est ma prétention, sur une dynamique idéologique qu'en ce moment, on en ressent tous les effets, mais on peine à comprendre son noyau idéologique.
Alors,
ce que j'ai cherché à faire dans cet ouvrage, décrypter le noyau idéologique de cette révolution qui nous tombe dessus et qui est d'une virulence, qui est d'un esprit d'inquisition qui m'inquiète terriblement.
Je suis contente que vous ayez utilisé les mots qu'on peine à comprendre. Parce que très honnêtement, bon, dans votre livre très, très, très fouillé, il y a des fois où je me disais, mais alors, qu'est-ce que c'est véritablement que le racialisme. Si je vous demande en quelques mots de me dire qu'est-ce que le racialisme pour les gens, parce que c'est relativement contemporain. On a vu apparaître ce mot-là, quoi, au milieu du 19e à peu près?
Ben, le terme est à quelques occurrences dans l'histoire, mais il réapparaît. Ah. C'est comme ça, parce que vous savez, les termes apparaissent ou réapparaissent. Il réapparaît dans les dernières années pour désigner ce pseudo-antiracisme, en quelque sorte. Ceux qui prétendent porter le combat de l'antiracisme, mais qui, dans les faits, paradoxalement, racialisent intégralement les rapports sociaux, codifient les rapports sociaux selon le langage de la race, et divisent fondamentalement les sociétés occidentales en deux pôles, les blancs et les racisés, et au nom de cette espèce de division qui est fantasmatique, qui ne correspond pas à la réalité des choses, viennent aplatir la diversité des langues, des cultures, des peuples, des civilisations, oui, des religions, des nations, pour réduire finalement l'humanité au critère de la couleur de peau. Et exciter une forme de conscience raciale dans un cas qui serait pénitentiel, c'est-à-dire le blanc qui devrait se déconstruire, et dans l'autre qui devrait être messianique, c'est-à-dire la figure du racisé qui viendrait corriger les défauts fondamentaux de nos sociétés et qui, à travers cela, nous pousse dans une logique d'affrontement identitaire grave et qui fait en sorte que les fondements même de notre société sont compromis, qui va jusqu'à faire le procès de l'universalisme, le procès de la culture commune, le procès de la nation, comme s'il fallait tout désagréger pour réduire la société au prisme racial, ce qui m'inquiète terriblement, comme je l'ai dit.
Oui, d'ailleurs, vous avez une phrase, à un moment donné, que j'aime beaucoup, vous dites « un peuple n'est pas une race, on peut y adhérer ».
Ah ben oui, c'est fondamental. C'est-à-dire, vous savez, je ne suis pas noir, voudrais-je l'être, ce serait assez compliqué. Un noir ne peut pas être blanc, voudrait-il l'être, ça ne fonctionnerait pas non plus. Mais tous les deux, on peut être québécois. Tous les deux, on peut être français. Autrement dit, la culture rassemble, la nation rassemble. Il est possible pour ceux qui rejoignent les sociétés occidentales d'appartenir à la nation. Il s'agit d'en apprendre les codes, de s'approprier les mœurs, de s'approprier la mémoire, d'apprendre à dire « nous » avec elle. Mais une fois que ce travail est fait, il est possible d'embrasser le destin d'une nation. Mais la race est une identité par définition étanche, une identité qui nous condamne à l'imperméabilité ethnique. Et de ce point de vue, il nous faut rappeler le langage de la culture, le langage de l'histoire. Or, ce qui m'intéresse beaucoup en France, parce que je trouve que c'est ici et au Québec, soit dit en passant, que se mène une forme de résistance.
Oui, on va en parler. Oui.
C'est que l'universalisme, on croit à l'universalisme, je crois à l'universalisme, mais il s'ancre dans la culture, il s'ancre dans la nation, il s'ancre dans une identité qui rend possible ensuite la promesse de l'universel. Je crois qu'au Québec, comme en France, nous avons une culture qui porte cette promesse. Nous ne devons pas la déconstruire pour nous transformer en lointaine ou proche province de l'Empire américain.
Le Québec, écrivez-vous, se trouve dans une situation existentielle et intellectuelle très particulière, car il représente d'un point de vue global le point de contact entre l'impérialisme woke américain, dont on va parler si vous le voulez bien, et la résistance française à cette idéologie. Vous parlez aussi de Webster, ce rappeur spécialisé dans l'activisme racialiste qui ira même jusqu'à redéfinir l'histoire du Québec. Et permettez-moi, c'est une citation un peu longue, mais elle me semble importante. C'est Webster qui parle et qui dit « Juste de penser que notre histoire a 400 ans, c'est faux. Notre culture est millénaire. On commence à compter notre histoire à partir de l'arrivée des Français, ce qui est absurde. Il y avait de l'esclavage ici avant l'arrivée des Européens. Ensuite, si on parle d'esclavage noir, des Afro-Américains, des Afro-Caribéens et des Africains ont vécu ici à partir de 1631. En tout cas, là, j'ai mal noté ça. Donc, ce que ça veut dire, contre quoi vous réagissez envers ces propos-là, qui ne sont pas complètement faux, Mathieu Bock-Côté?
Ils sont quand même essentiellement, c'est-à-dire, à moins de croire que les territoires sont de pures abstractions, ce qu'on appelle le pays, qui est le Québec. Évidemment qu'il y avait des populations, on ne parle pas pour rien de Première Nation, de Premier Peuple, mais le pays qui est le Québec trouve son origine dans l'arrivée des Français en 1534 et en 1608 ensuite. Et c'est une histoire dont le fil de continuité, donc ce n'est pas absurde de rappeler que la fondation du Québec s'y trouve. Ensuite, chercher comme fil de continuité à travers cette histoire la question de l'esclavage, comme le propose Webster, qui d'ailleurs, avec d'autres activistes qui cherchent à se faire passer pour historiens, travaille à criminaliser, dans les faits, à diaboliser l'héritage de la Nouvelle-France, le portrait de la Nouvelle-France, la figure de la Nouvelle-France, comme si la Nouvelle-France était déterminée par la même logique que les colonies du sud des États-Unis, qui ont le destin que nous connaissons.
Oui, absolument.
Bien, on défigure l'histoire du Québec pour en faire une forme de... pour projeter sur elle des schèmes et des catégories issues de l'histoire américaine et dans des pages les plus noires de l'histoire américaine. Donc, c'est fondamentalement faux. Mais, vous savez, c'est le propre des idéologues que de s'intéresser assez peu au réel, finalement. Ce qui les intéresse, c'est tricoter un récit qui correspond à une forme de vérité idéologique à laquelle ils tiennent plus que tout. Et c'est ce que nous voyons. Et ce discours-là, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quelques années encore, il était marginal. Et très rapidement, on l'a vu progresser. Très rapidement. Et aujourd'hui, qui ne s'y soumet pas est soupçonné d'être raciste lui-même, ce qui est quand même assez grave. Donc je pense qu'il nous faut tenir tête à cela. L'histoire du Québec n'est pas une subdivision de l'histoire américaine, et ceux qui, quelle que soit leur origine d'ailleurs, se joignent à l'histoire du Québec, me semble-t-il, doivent se l'approprier et ne pas chercher à la dissoudre dans l'univers mental américain.
Et il y a cette affaire George Floyd, assassiné par Derek Chauvin, excusez-moi si je francise un peu son nom. Il y a eu ce n'est pas encore un dénouement, mais en ce moment même, c'était il y a 2 jours maintenant que, je rappelle que cette émission-là est diffusée 2 semaines plus tard, par rapport à l'enregistrement. Donc, je vais dire, il y a 2 semaines, on a su que, finalement, il a été condamné, mais quand même, meurtre, involontaire. Je me suis dit au moment, parce que vous parlez de cet assassinat-là et vous parlez de tout ce qui a suivi, de ces manifestations qu'on a d'ailleurs au nom de la bienséance, qu'on a laissé faire, même au risque d'aller contrevenir à ce qu'on nous réclamait par rapport à la pandémie, par rapport au virus. Les gens se sont donné bonne conscience, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous prétendez, hein, Mathieu Bock-Côté. Les gouvernements ont dit oui, non, là, il faut les laisser manifester, il faut qu'on réagisse. C'est de cela dont il est question.
Oui, et c'est particulier parce que l'affaire Floyd, on a tous été bouleversés par ce qu'on a vu, hein, faut pas se tromper.
Bien sûr.
Je pense que quelle que soit la sensibilité politique, idéologique, on a vu ça, c'était une scène atroce, glaciale.
Bien sûr.
Et je pense qui est fait écho à quelque chose qui est présent dans l'histoire américaine. Mais le fait est qu'elle ne nous engage pas comme Québécois, elle ne les engage pas comme Canadiens, elle n'engage pas les Français, les Suédois, les Norvégiens. Le fantasme racialiste voudrait que tous les Blancs se sentent engagés par cela et que tous les Noirs se ressentent comme Noirs américains. Or, c'est faux. Nos histoires ne sont pas interchangeables. La couleur de la peau n'est pas le déterminant premier de l'identité humaine. Et ce qui s'est passé dans l'affaire Floyd, moi, j'espérais comme tous une condamnation. Je l'aspire parce que je crois qu'il y a un acte de justice qui devait être fait. Bon, mais je ne vois pas par quel chemin, je vois comment idéologiquement on nous conduit là, mais de quelle manière ce qui s'est passé avec l'affaire Floyd devrait amener le Québec à s'accuser de racisme systémique. Je ne vois pas comment ce qui s'est passé avec l'affaire Floyd devrait nous amener à
comprendre
que la France s'accuse de racisme systémique. Autrement dit, je n'accepte pas l'instrumentalisation de ce qui était un acte atroce et barbare, je n'accepte pas son instrumentalisation pour faire ensuite le procès de l'existence même de nos sociétés.
Mais
et voilà pourquoi...
Excusez-moi Mathieu, pardon, j'ai réussi à vous couper la parole, je m'excuse Mathieu. Mathieu Bock-Côté, qu'est-ce qui s'est donc passé pour que la race revienne ainsi hanter la vie des sociétés occidentales? C'est une question que vous posez dans le livre. Je vous la renvoie aujourd'hui, cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, on en arrive à ce constat que vous faites dans ce livre-là?
Ouais, on doit surmonter effectivement le moment d'étonnement, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il semblait aller de soi que nos sociétés allaient se construire en s'arrachant toujours davantage à la logique raciale. Enfin, ça allait presque de soi. Alors, ce qu'on voit en ce moment, je pense, il y a plusieurs éléments qui se croisent. Il y a d'un côté l'hégémonie idéologique américaine qui fait en sorte que les catégories issues de l'histoire américaine tendent à se diffuser de plus en plus à travers le divertissement, à travers l'université, à travers le capitalisme, tendent à se diffuser partout à travers le monde. Ensuite, il y a la question migratoire en Europe, mais aussi au Québec, qui fait en sorte que les populations issues de l'immigration arrivent dans le monde occidental et s'identifient souvent, pas les populations dans leur ensemble, mais certains mouvements qui s'en réclament, des mouvements indigénistes, des mouvements racialistes, des mouvements décoloniaux, s'identifient de manière fantasmatique à la situation des Noirs américains par principe d'identité raciale et en viennent à plaquer en quelque sorte l'identité, une situation fantasmée, donc, comme s'ils se voyaient comme des Noirs américains, mais en France, mais en Suède, mais au Québec, et faire le procès des sociétés occidentales dans ce langage de conscience raciale. Oui. Et on le voit avec des mouvements comme les indigènes de la République en France, qui cherchent à créer une forme de conscience raciale et révolutionnaire, qui disent aux populations issues de l'immigration, vous n'avez pas à vous intégrer. Si vous vous intégrez à la société d'accueil, vous êtes coupable de trahison raciale. Si vous vous intégrez à la société d'accueil, vous trahissez vos origines. Donc, et comme si l'intégration était un crime, en quelque sorte. Ouais. Ajoutez à ça les tensions de la société américaine. Je cite un exemple dans le livre, moi, qui m'a bouleversé. C'est Kamala Harris, qui est la coalition de Joe Biden, elle est élue. Et là, il y a un débat aux États-Unis auquel certains ils font écho au Québec, où on dit, est-ce que Mme Harris peut véritablement représenter les Noirs, car elle est mariée avec un homme blanc juif, qui plus est. N'est-elle pas un biscuit Oreo? N'est-elle pas une bounty, comme on dit en France? Est-ce que autrement, et là, on nous dit autrement dit que c'est une condamnation implicite du mariage mixte. C'est une condamnation du couple mixte. Est-ce qu'on se rend compte qu'on se dirige dans un monde où les couples mixtes sont désormais des couples suspects à la lumière du principe de la solidarité raciale? Alors on voit ça. Donc
finalement, on condamne ce qu'on condamnait, enfin je veux dire, ce qu'on voudrait condamner devient encore plus condamnable.
On est dans le retour des lois raciales, mais à prétention progressiste. C'est quand même, de même, les groupes racisés non mixtes, c'est la ségrégation positive, c'est la ségrégation progressiste. Eh bien non, il n'y a pas de ségrégation positive. La ségrégation, c'est la ségrégation. Donc, comme je dis, il y a plusieurs facteurs. Il y a le multiculturalisme idéologique dont j'ai parlé dans d'autres livres, qui pousse la conscience victimaire dans les sociétés contemporaines. Il y a l'hégémonie américaine. Il y a la diffusion de certaines théories dans les sciences sociales. Et à travers ça, il y a l'immigration massive qui correspond pas aux capacités d'intégration et l'émergence de mouvements qui cherchent à américaniser mentalement ces populations. Vous avez à travers tout cela un cocktail qui fait que nos sociétés deviennent de plus en plus conflictuelles. Et moi, je suis de ceux qui s'inquiètent terriblement de ce qui arrive et qui cherchent, avec les modestes moyens qui sont les miens, à chercher à nous permettre de comprendre ce qui arrive et aussi à résister intellectuellement en déconstruisant ces concepts qui se présentent à nous comme s'ils allaient de soi, un racisme systémique, privilège blanc. Je pense qu'on doit les déconstruire. C'est un travail d'hygiène intellectuelle et d'hygiène démocratique. On ne doit pas penser à travers de tels concepts.
Oui, c'est marrant parce que c'est marrant. Non, c'est pas drôle du tout. Je voulais dire que c'est un livre que je vais tellement garder près de moi quand, à part la grâce de Dieu, si ça arrive un jour, je pourrai à nouveau avoir du monde autour de ma table. Et mon Dieu, qu'il y a des assiettes qui vont revoler. Mais je vous remercie de vous être posé cette question, Mathieu Bock-Côté, et de nous avoir éclairé sur cette idéologie dangereuse de la gauche woke. Évidemment, vous êtes quelqu'un, vous avez le verbe entre guillemets facile, ça n'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est-à-dire que les mots vous viennent assez facilement et parfois vous appelez un chat un chat. On va écouter un deuxième extrait de votre livre qui, je le rappelle, est maintenant sorti sur papier bien évidemment, mais également en audio. Il est sur le catalogue de Vues et Voix, La révolution racialiste et autres virus idéologiques. On écoute Mathieu Bock-Côté.
Après des siècles d'aveuglement, il faudrait exposer au grand jour la structure raciale des sociétés occidentales pour mieux la démanteler et anéantir enfin l'empire de la suprématie blanche. Les sociétés qui résistent à cette théorie sont accusées de traîner la patte. Elles seraient en retard sur la nouvelle normalité diversitaire. La gauche woke n'imagine pas qu'elle trouve devant elle d'honorables adversaires, mais des bouseux, des tarés, des ploucs, de pitoyables minus, des phobes, des racistes, c'est-à-dire des blancs encore trop blancs, devant se déblanchir pour gagner en humanité. L'histoire de la décolonisation, engagée dans la seconde moitié du 20e siècle par les pays occidentaux, devrait se poursuivre désormais à l'intérieur de leurs frontières et les obliger à questionner leur mythe fondateur. C'est seulement lorsque les peuples occidentaux seront devenus étrangers chez eux qu'on la jugera achevée.
Ouais, la gauche woke. Un petit mot sur la gauche woke, ça vient d'où ça?
Ça vient des campus américains, c'est cette gauche qui se veut hyper consciente de ses privilèges et qui cherche, qui est dans l'autocritique raciale et identitaire permanente, qui consent cette racialisation en quelque sorte et qui bascule dans l'intolérance la pire, qui considère que tout ce qui contredit les discours à prétention minoritaire ça relève du discours haineux et qui, parce qu'elle croit avoir devant elle le diable, se croit tout permis pour l'abattre, notamment de le censurer, notamment de le déplatformer, notamment de le bannir de l'espace public, toujours pour le faire taire. Et de ce point de vue, on en a vu beaucoup d'exemples ces derniers mois avec la logique de censure qui s'abat sur nos sociétés. Mmh. Ce qui contredit le discours diversitaire, ce qui contredit la révolution racialiste est présenté comme haineux, n'acceptons pas cette caricature d'une critique légitime de cette gauche woke.
C'est bien entendu et c'est bien compris, Mathieu Bock-Côté. Bonne fin de séjour en France. Merci beaucoup pour ce livre dont je rappelle le titre, La révolution racialiste et autres virus idéologiques. Oui, c'est un mot à la mode, ça, virus, en ce moment. Allez, bonne journée. Salut Mathieu, merci, au revoir. J'ai fini cette entrevue avec Mathieu Bock-Côté en disant que oui, le virus qui est dans le titre de son livre, le virus est un mot pitoyablement et lamentablement à la mode en ce moment parce qu'on s'en passerait bien de vous à moi. Mais parlons-en du virus, ça je ne l'ai jamais fait parce que j'ai trouvé une maison d'édition qui fait entre autres dans la BD, dans la bande dessinée pédagogique pour les enfants, donc d'apprentissage. Et ils font également dans le livre audio éventuellement. Ils s'appellent Procidis, P-R-O-C-I-D-I-S, et ils ont lancé il y a quelque temps une marque qui s'appelle Hello Maestro, qui englobe sept volets différents d'une saga à chaque fois différente qui s'appelle Il était une fois avec un point de suspension, et ce sont des séries absolument cultes, semble-t-il, en Europe, créées par Albert Barillet et qui ont su véritablement fédérer les enfants autour du savoir. Écoutez, leur lancement, ça remonte à 1978, ça, Hello Maestro. Donc, c'est pas d'hier. Alors, c'est ce qu'on présente comme un fleuron de l'animation ludo-éducative française. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est en France. Ben non, parce que vu que ça se retrouve sur Internet, c'est peut-être un produit français, mais c'est un produit international. Alors, il est disponible notamment par le fameux streaming. Je ne sais pas si vous êtes par exemple abonné à Spotify ou simplement si vous n'y êtes pas, il y a un site www.hellomaestro.fr qui nous présente là un voyage dans l'infiniment petit à l'intérieur du corps humain où les cellules, les sels minéraux, les virus sont personnifiés et rappellent les personnages désormais très célèbres de ces séries que vous pourrez aller écouter. Ce qui est vraiment chouette, c'est que les enfants peuvent découvrir le fonctionnement du corps humain avec des commentaires très souvent espiègles de ce fameux maestro dont le bureau est à l'intérieur du cerveau. Alors il y a les bons, comme les globules blancs qui combattent les méchants, c'est-à-dire les virus et les bactéries qui prennent les traits de personnages qui s'appellent nabots et teigneux pour garder le corps humain en bonne santé et l'aider à se développer correctement. Autrement dit, c'est vraiment une manière de faire comprendre aux enfants, entre autres, ce qu'est en ce moment la Covid, ce qu'est un virus en général, ce qu'est, entre autres, le vaccin. Pourquoi est-ce qu'il est utile? Et là, je vous propose d'entendre un extrait de Hello Maestro.
Pensez ce que vous voulez, les garçons, mais si Alma avait fait son vaccin, elle n'aurait pas été malade. Elle l'a échappé belle, parce qu'elle aurait pu mourir.
C'est vrai, je suis désolé, psy, je voulais pas dire ça. Moi aussi, je l'aime beaucoup, Alma.
Bonjour tout le monde. Tu as bien dormi?
Oh, j'ai fait un cauchemar.
J'ai rêvé qu'une rose géante pleine de piquants voulait m'attaquer.
Oh bah oui, bah c'est pas moi alors, parce que moi j'étais un virus.
Oui, lui c'est le Corona Minus. Tout nouveau mais pas très vilain, heureusement.
Oh, je me sens bien mieux maintenant. C'est gentil d'être venu.
Mais c'est normal, t'es notre copine. On te fait pas la bise pour respecter les gestes barrières, mais le cœur y est.
On t'a apporté des gâteaux. On les a fait avec Minus, spécialement pour toi.
Vous êtes adorable.
Mais qu'est-ce que tu fais, Minus?
J'enlève mon t-shirt. Je veux me faire vacciner tout de suite, moi.
Il faut d'abord voir ton carnet de santé et tes parents. Après quoi, tu auras droit à ton vaccin.
On ira ensemble se faire vacciner, alors. Pas question d'attraper d'horribles virus si on peut les éviter.
Oui, ben moi j'ai pas du tout envie de faire un nouveau cauchemar, hein. Le Corona Minus, j'en veux plus.
Alors moi, j'avais évidemment, j'ai pas d'enfant, donc je connaissais pas, mais mon ami Jean-Sébastien, oui, il connaît bien cette série-là. Il était une fois, apparemment, il était une fois la vie, tout ça, peut-être, je sais pas, la religion, peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça. Mais en tout cas, alors il était bien touché, bien ému de retrouver des voix qui lui disaient foncièrement quelque chose. Hello Maestro sur la vaccination, mais il y en a tellement d'autres sur le site de Hello Maestro. Alors, restez des nôtres, c'est Clotilde Sey qui anime pour vous l'émission des livres pleins les oreilles. On se retrouve en seconde partie pour parler avec Céline Palinski. J'espère ne pas avoir déformé son nom. On va parler des premières rencontres en France et internationales du livre audio et d'Ernest Hemingway. Ne manquez pas ça. Des livres pleins les oreilles, ça continue. On a longtemps considéré, est-ce encore vrai maintenant? Il semble que oui, qu'Ernest Hemingway a la réputation d'être le plus grand écrivain américain. Eh bien, si vous aimez Hemingway, vous allez peut-être avoir l'occasion d'en découvrir beaucoup plus sur cet homme, parce que PBS, au mois d'avril, a proposé un documentaire sur cet homme. Le titre, c'est « Ni misogyne, ni dilettante ». Ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que M. Hemingway est très, très mal servi par les livres audio. Alors, vous me direz, mais pourquoi t'en parles? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. D'abord, du côté du commercial, tout reste à faire, sauf le vieil homme et la mère. Alors on a l'impression qu'il n'a écrit que cela, le vieux bougon. Et pourtant, hein, dans ce cas-ci, mes amis, le livre audio accessible a mieux fait son travail que le livre commercial. Si vous êtes une personne mal ou non-voyante, mal ou non-voyante, et que vous soyez abonné au SQLA, CAEB, ou encore en Europe à des bibliothèques audio francophones qui sont destinées aux personnes qui n'ont plus accès à la littérature imprimée, eh bien vous allez trouver énormément de livres d'Ernest Hemingway. Mais en version commerciale, alors là, je peux vous dire que c'est la dèche totale. Cela dit, en seconde partie, j'ai une autre bonne nouvelle quand même à vous annoncer, c'est que le livre audio va avoir droit à ses premières rencontres internationales. Ça va être à la mi-mai, les 18 et 19 mai. Je vais m'entretenir avec Céline Paluzinski, qui est directrice de La Plume de Paon et qui est à l'origine de ce brassage d'idées virtuelles autour du livre audio. Et puis pour finir, j'aurai peut-être le temps de vous présenter une nouveauté qui est un véritable coup de cœur en ce qui me concerne. Mais d'abord, Hemingway, un documentaire et des livres audio. Alors, grâce à des mes camarades français, de documents, on a été capable de faire un autre documentaire sur Ernest Hemingway. Un documentaire sur Hemingway tout en nuances, nous dit-on, qui a été proposé sur PBS en avril, mais ne vous en faites pas, que vous pouvez réentendre ou revoir simplement en vous branchant sur le site internet de PBS. Donc, un travail très, très fouillé qui offre un regard un peu plus nuancé que celui de la légende Hemingway, tant sur l'écrivain, mais sur aussi sa réputation récurrente et sulfureuse d'alcoolique, de misogyne, d'amateur, de corrida, etc. Non, là, on y va plus dans la nuance. Reste que, nous dit-on ici, sur le site de l'actualité, son suicide à 61 ans demeure incontestable. Alors, est-ce que c'est la vérité, rien que la vérité, toute la vérité au sujet d'Hemingway dans ce documentaire? Non, certainement pas, mais on y présente des facettes un peu plus détaillées de celui qui est, je vous le disais en préambule, considéré comme le plus grand écrivain américain du XXe siècle. C'est une approche apparemment très très méthodique qui a été faite pour relater la vie de cet écrivain et évidemment ça n'a été possible que grâce aux nombreuses archives qu'on avait à notre disposition et entre autres on revient beaucoup sur les relations complexes que l'auteur entretenait avec les femmes de sa vie, à commencer par sa mère, ses sœurs ou même l'infirmière dont il va tomber amoureux durant la Première Guerre mondiale, alors qu'il se remettait de ses blessures. Ça nous fait penser aux patients anglais, ça. Et puis, il va y avoir quatre épouses. Mais, note un des co-auteurs de ce documentaire, nous voulions en finir avec cette idée qu'Hemingway n'aimait pas les femmes, parce que c'est tout le contraire. Il les aimait trop, peut-être, et en dépendait fortement. Plus impressionnant, à un moment donné, on parle de ces éclats d'obus qui ont été prélevés de son corps. Et ça, les deux réalisateurs n'en revenaient pas. C'est une expérience qu'Hemingway aurait fait de la mort, alors qu'adolescent, il était en France. Il conduisait une ambulance de la Croix-Rouge lorsqu'un obus a éclaté et qu'il a passé toute sa vie avec des éclats d'obus fichés dans le corps. C'est assez... Je vous dis, c'est vraiment, si vous allez sur le site de PBS et que vous aimez Hemingway, que vous aimez sa littérature, c'est vraiment à aller voir. Alors, je vous le disais, sur le plan au SQLA, on retrouve énormément de livres de M. Hemingway, Pour qui sonne le glas et compagnie. Vous pouvez trouver tout cela très très facilement au SQLA, CAEB ou autre bibliothèque accessible en audio. Mais du côté commercial, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé Le vieil homme et la mer. J'ai trouvé Le vieil homme et la mer. J'ai trouvé Le vieil homme et la mer. Ah oui, et puis j'ai trouvé Le vieil homme et la mer. Mais alors par contre, Le vieil homme et la mer, je l'ai trouvé dans plein de versions. Par exemple, en 2021, là, il y a une version en anglais british, en anglais d'Angleterre, d'une platitude infinie. Mais ça vient de ressortir en audio, un très très court extrait, en anglais.
And the boy had gone at their orders in another boat, which caught 3 good fish the first week. It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty, and he always went down to help him carry either the coiled lines or the gaff and harpoon. And
je vous disais que c'était plate. Vous allez entendre en espagnol, c'est déjà beaucoup plus musclé.
¡Santiago!
Le dijo el muchacho trepando por la orilla desde donde quedaba varado el bote.
Yo podría volver con usted. Hemos hecho algún dinero.
El viejo había enseñado al muchacho a pescar y el muchacho le tenía cariño.
¡No! Tú sales en un bote que tiene buena suerte. ¡Sigue con ellos!
Pero recuerde que una vez llevaba 87 días sin pescar nada y luego cogimos peces grandes todos los días durante 3 semanas.
Oui, puis en plus avec les mouettes, qui parle bien espagnol, elle, et puis la mer, et puis tout ça. Oh, attendez, j'ai trouvé une autre version pour vous du vieil homme et la mer. En norvégien. Tiens.
Santiago, sa pojken. Oh, sa den gamle. Han satt och höll i sitt glas och tänkte på gångna tider. Ska jag gå och skaffa sardiner åt dig imorgon? Nej, gå och spela baseball du. Än så länge kan jag ro. Och Rogelio sköter nätet åt mig. Jag vill så gärna göra det.
Alors, en quoi d'autre j'ai trouvé? Attendez que je me retrouve dans mes feuilles. Ah, bah oui, en chinois!
斑块蔓延到两颊下部。他的双手有深深的伤疤，那是由于常年用绳索对付沉重的海鱼而留下的。 不过,这些伤疤没有新的,他们古老的像酒精侵蚀的无鱼沙漠.
Ce qui est formidable, c'est que on sait, et tout ça se passe à peu près au même moment dans le livre, hein, et puis Santiago qui dit hey, emmène-moi, etc. Puis là, même si on ne comprend pas la langue, on sait que c'est exactement là qu'on est. Bon, alors en français, mais oui, ça existe en français. Ça a été fait en 2018 chez Gallimard Écoutez Lire, et c'est lu par l'extraordinaire comédien qui est Jacques Bonafé.
Il n'en finissait pas de sortir. L'eau ruisselait le long de ses flancs. Il étincelait dans la lumière. Sa tête et son dos étaient violet foncé. Le soleil éclairait en plein ses larges rayures lilas. Il avait un nez très long, aussi long qu'une batte de baseball et pointu comme une épée. Le poisson émergea tout entier, puis avec l'aisance d'un bon nageur, replongea. Le vieux eut le temps d'apercevoir la grande queue en forme de faux qui s'enfonçait, tandis que la ligne recommençait à galoper. « Il a deux pieds de plus que la barque !» dit le vieux.
Voilà, le vieil homme et la mer qu'on peut trouver en audio commercial dans à peu près toutes les langues, y compris en français, mais point d'autres livres d'Hemingway, sauf si vous avez accès à des bibliothèques de littérature audio accessibles à toutes et à tous. Un petit peu de musique peut-être, et puis ensuite, on va aller essayer de joindre Céline Paluzinski, fondatrice de La Plume d'Opan, qui est à l'origine des premières rencontres du livre audio international à Strasbourg les 18 et 19 mai prochains.
J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête? J'ai perdu mes bras sur la place de l'opéra. Je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché ça et là, dis-moi. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est mon nez? Reviens, chérie, fais-moi. Mon nez n'importe pas. C'est toi qui peux me compléter. J'ai cherché ça et là, je ne les ai pas trouvés. Dis-moi, où sont mes pieds? Reviens, chérie, vers moi. Mes pieds n'importent pas. C'est toi qui peux me
Voilà, Pink Martini sur les ondes de Canal M. L'émission des livres plein les oreilles. En principe, elle est quelque part dans un train entre deux villes. Céline Paluzinski, bonjour. Cécile, pardon, bonjour. Paluzinski, comment allez-vous?
Bah, ça va très bien.
Ah, bah, je vous entends bien, vous savez, hein. Il n'y a aucun problème.
Bah, c'est parfait. Pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure. Céline, je suis ravie de vous avoir pour deux raisons. En fait, plusieurs autres aussi, mais en tout cas, pour trois raisons. La première, c'est que nous sommes toutes les deux des passionnées de livres audio. Ça, c'est très clair. La deuxième raison, c'est que vous êtes à la tête de la Plume de Paon, dont on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on en reparle à un moment donné à l'émission des livres plein les oreilles, parce que c'est un site important, je dirais même essentiel, pour le livre audio. Et puis, il y a les rencontres, ce festival et ces rencontres autour du livre audio francophone, le 8e du nom, qui vont avoir lieu là à la mi-mai, hein, entre le 16 et le 20 mai, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Les rencontres francophones, voilà. Le 14 et 15, et ensuite le festival.
Bon, alors, j'aimerais que vous nous en parliez un peu plus. D'abord, moi j'ai dit tantôt, j'ai fait confusion avec un autre festival. C'est le 8e du nom, c'est bien ça, hein ?
Oui, tout à fait.
Alors, ça veut dire, Céline Paluzinski, que... Cécile, à chaque fois je vous dis Céline, ça n'a pas de bon sens, et c'est ce que j'ai écrit sur ma feuille, Cécile, ma fille, voilà, je vais penser à Claude Nougaro et je vais arrêter de vous appeler comme Madame Dion. Alors Cécile, on comprend que de telles rencontres sont essentielles aujourd'hui au livre audio pour continuer la mission qu'il s'est donnée de se faire connaître, de faire connaître cette autre manière de lire. On comprend que le livre audio prend de l'ampleur petit à petit, toujours et toujours dans la francophonie.
Oui, et puis je pense que la dernière année qu'on vient de traverser avec le confinement, chacun a aussi trouvé refuge dans ce cocon sonore qui est le livre audio. Donc ça a sûrement fortement contribué au développement et à la visibilité du livre audio, oui.
C'est vrai, hein, les gens ont tout d'un coup découvert, là, comme je le disais, une autre façon de lire. Hein.
Oui, on avait sans doute besoin d'être bercé, de se faire raconter des histoires,
ouais.
Dans une période où on était beaucoup devant les écrans, enfin derrière les écrans.
Alors, de quoi sont faites ces rencontres-là ? Bon, moi, je le sais pour avoir lu tous les documents, mais j'aimerais que vous nous en parliez, que vous en parliez aux auditeurs. D'abord, je ne voudrais pas qu'ils pensent que ce sont des rencontres françaises. Ce sont bien des rencontres francophones.
Francophones. Alors oui, peut-être une précision. Donc, le festival, c'est la 8e édition. En revanche, les rencontres francophones, c'est une première édition.
C'est ça.
Et je pense qu'il y a mûri, suite à un passage justement au Québec, je crois maintenant il y a 2 ans, oui. Qui avait été initié par l'Association des éditeurs québécois, où on se disait qu'on avait sûrement des sujets de réflexion communs et que ça c'était intéressant d'en parler. Donc ça a mûri depuis. Et effectivement, ce sont bien des rencontres francophones parce qu'on a cogité, on a réfléchi à la fois avec les acteurs du livre québécois, mais également belges et puis quelques acteurs d'Afrique francophone, en se disant que la notion finalement de marché du livre audio francophone, c'était un grand mot, mais qu'on ne savait pas encore très bien quelles étaient les réalités derrière, y compris pour la diffusion du livre audio francophone.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Parce qu'il y a encore énormément de gens, hein, j'imagine que c'est pareil chez vous, qui pensent que le livre audio, il est fait, il est né et il est encore fait pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et c'est plus vrai maintenant. Ben, je veux dire, c'est encore vrai, oui.
C'est encore vrai, mais effectivement, les usagers principaux aujourd'hui, ce ne sont plus essentiellement les personnes malvoyantes, pour qui l'accessibilité est évidemment extrêmement importante, mais on trouve de plus en plus de jeunes et de jeunes actifs qui, du coup, étendent leur temps de lecture en recourant au livre audio. Alors, je vous rejoins, c'est que je pense qu'il y a eu tout un travail encore à faire, hein, de dépoussiérage, oui, de cette image du livre audio qui était plus envisagée comme une substitution au livre papier, alors que non, c'est bien au-delà de ça. Mm-hmm. C'est presque un livre augmenté, on va dire, et qui rend la lecture, la littérature vivante.
Oui, vivante, et du coup, c'est marrant parce que je parlais avec quelqu'un de chez Ouidire, que vous, oui, connaissez bien, et qui me disait que ce qu'il aimait, c'était que c'était pas un moyen parfait. Parce que, fatalement, dès l'instant qu'il y a lecture à haute voix, il y a, entre guillemets, interprétation, je veux dire, à, oui, moins de faire une narration proprement neutre et inécoutable, et que donc, ça ne peut pas être parfait. Je veux dire, il y a des livres, oui, qui vont plaire à certains, qui ne vont pas plaire à d'autres. Et c'est possible aussi que le livre audio n'atteigne pas tout le monde. Et c'est pas grave. Il y a plein de gens, par contre, moi, c'est ma façon de répondre. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, oui, avec moi, Cécile. Mais je réponds oui, mais il y a plein de gens qui n'ont jamais été attirés par la lecture sur papier et qui, tout d'un coup, se découvrent une passion pour la littérature grâce au livre audio.
Bah, tout à fait. Je pense qu'en fait, il faut l'envisager comme étant une porte d'entrée de plus vers le mot, vers la littérature. Donc, il y a effectivement des lecteurs qui resteront... quoi qu'il arrive, avant tout, des lecteurs de livres papier, et puis d'autres qui découvriront, et ça on le voit notamment par exemple avec les faibles lecteurs ou dans des quartiers dits difficiles où parfois les élèves ont des difficultés de lecture, finalement ils peuvent avoir une révélation de ce qu'est la littérature à travers justement la lecture à voix haute. Donc c'est tant mieux, plus il y a de formes possibles d'accès, je crois, aux livres, le mieux c'est.
Et dites-moi, Cécile, de quoi seront faits les débats, quels seront les principaux questionnements autour du livre audio, quelles sont les grandes questions qu'on va débattre durant ces premières rencontres?
Oui, alors peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir un double format et deux tables rondes qui vont être ouvertes au public professionnel, où on va faire à la fois un état des lieux du marché du livre francophone dans sa diversité, mais on va questionner aussi les enjeux de diffusion, distribution du livre audio. Oui. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, même l'idée, pourquoi pas, peut-être un jour rêvons d'une plateforme francophone. Non,
oui.
Et puis des questions aussi sur les usages du livre audio, notamment les usages pédagogiques.
Oui.
Et puis un sujet, je crois, qui est un peu incontournable depuis quelques temps, en tout cas on en parle beaucoup, c'est cette porosité, cette frontière entre podcast et livre audio. Comment est-ce que ça va faire évoluer l'offre éditoriale? Comment les deux vont s'influencer? Et puis, on aura un format atelier. Là du coup, en petit groupe restreint, on va dire que ça va être des ateliers de réflexion où on espère cogiter tous ensemble et puis avancer dans notre réflexion sur...
Je comprends. Parce que, ça, oui, puis ça va être très réactif. Hein. Il y a des gens, ça, vous allez permettre à des gens, peut-être, qui ont toujours voulu lire à haute voix, de s'essayer, de se rompre à cette discipline-là.
Oui, ça peut donner aussi envie d'aller découvrir le livre audio, d'aller, ouais, voir plus loin.
Mais vous allez avoir un studio là-bas sur place aussi, non? Pour que les gens s'essaient. Alors, ça, c'est dans le cadre du festival, non?
Oui, ça, c'est dans le cadre du,
d'accord,
festival. Et en plus, on est vraiment cette année dans le festival dans un format hybride, parce que je crois que, comme chez vous, on est encore en période de confinement, donc le festival arrivant très vite, on va être dans un double format sur place et à distance. Oui.
Et vous allez remettre les prix du livre audio, donc elle
alors,
est... Oui.
Les prix du livre audio, en fait, on les remet au mois de juin chaque année au Centre national du livre, donc ça sera un petit peu plus tard. Et là aussi, cette année, on a fait évoluer un peu le prix du public, qui est devenu un prix justement du public francophone.
Oui.
Donc on a développé ça avec l'Institut français, avec ce qu'on disait tout à l'heure, cette idée de dire on va mettre en valeur des éditeurs de livres audio français, mais la francophonie, c'est bien au-delà de ça, donc... Cette année, il y a deux éditeurs québécois dans la sélection.
Oui.
Et puis, on imagine que dans les années futures, si Le livre audio se développe aussi en Afrique, hein, ce qui pourrait avoir du sens compte tenu de leur tradition de l'oralité.
Bien sûr.
On pourrait aussi voir une offre émerger.
Oh, ça, ce serait formidable, tous les contes africains, tout ça, oui. Ah,
ah
là
là. Absolument, oui.
À l'ombre des baobabs, on a notre ami Boukhar Diouf, nous, ici, qui nous... Ah oui, absolument, on est... Ah, c'est fantastique. Écoutez, je n'ai qu'un regret, Cécile, c'est de ne pas pouvoir être avec vous directement et de pouvoir être sur place à Strasbourg, mais ça va me faire plaisir de pouvoir participer à un de vos ateliers et de représenter bien, Vues et Voix, hein, qui est le premier et le plus gros producteur de livres audio au Québec. Alors, Cécile, merci beaucoup. Je vais vous donner rendez-vous. Je vais vous rappeler très vite parce que je voudrais qu'on parle de La Plume de Pan. C'est un site que j'adore. Vraiment, là, j'écoutais encore Histoire de perdre la tête, par exemple, justement, qui est une production de Oui Dire et je trouve ça tellement bien fait. Et c'est le genre de choses aussi que vous diffusez sur cette page-là, parce que vive Internet aussi, quand on aime le livre audio, il y a beaucoup de possibilités en passant directement par des sites comme La Plume de Pan. Merci beaucoup Cécile Paluzinski. Pardon de vous avoir appelé Céline. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bon voyage.
Vous aussi.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Ah, je suis tombée sur un livre audio nouveauté chez Gallimard Écoutez Lire et vraiment, je suis tombée en amour avec l'extrait. C'est très rare qu'on tombe en amour avec un extrait, mais parfois, ben, cet extrait-là vous donne envie d'en savoir plus. Je me suis procuré ce livre audio. Ça s'appelle « C'est aujourd'hui que je vous aime ». C'est de François Morel. C'est lu par l'auteur. Et je vous lis ce qui est écrit sur le site de Gallimard pour nous présenter ce livre-là. On n'est pas sérieux quand on a 12 ans, on tombe amoureux furieux. Curieusement amoureux, Isabelle, sa main, son nom est un refrain comme on va l'entendre, sa beauté, une chanson d'amour, on la guette, on se parle, on fantasme, on la désire, qui ça, on ? Ici, pas de nous, non, c'est vraiment trop banal. Encore moins de jeu parce que c'est trop pédant. Le confident de « C'est aujourd'hui que je vous aime », par pudeur, par plaisir, se nomme « Les hommes ». Alias, tous les garçons, alias François Morel. Je vous propose d'écouter un extrait. Vous allez voir, c'est aussi très, très musical. En tout cas, c'est superbement fait. C'est écrit et lu par François Morel. C'est aujourd'hui que je vous aime.
Devant la porte grande ouverte, dans le soleil éparpillé, au mur parmi la vigne verte, et mes bras sont tendus vers vous. C'est aujourd'hui que je vous aime. Pierre Reverdy, pour le moment... La plupart du temps. De tout temps et dans tous les pays, quelles que soient leurs origines sociales, leur religion, leur couleur de peau, leurs comptes en banque, quelles que soient leurs coutumes, leurs inspirations, quelles que puissent être leurs convictions politiques, syndicales, philosophiques, les hommes, sur tous les continents, sous toutes les latitudes, dans tous les hémisphères, à travers toutes les galaxies, tous les systèmes solaires, lunaires, tous les systèmes encore inconnus à l'heure où nous parlons, tous les systèmes également ignorés à l'heure où nous aurons fini de parler, les hommes, définitivement, irrémédiablement, douloureusement, secrètement, ont été amoureux d'Isabelle Samain.
Isabelle Samain, Isabelle Samain. Isabelle Samain.
Je rêverais d'un poème idéal qui n'aurait pour parole que Isabelle Samain, Isabelle Samain, Isabelle. Son nom déjà est une chanson d'amour. Une chanson d'amour à la métrique parfaite, à la facture classique, appréciée. Isabelle Samain, premier hémistiche. Isabelle Samain, second hémistiche. Un alexandrin parfait. Qui rimerait exactement avec le vers suivant, Isabelle Samain, Isabelle Samain.
Et je suis sûre que vous êtes frustrée comme moi, parce que moi c'est exactement l'effet que ça m'a fait quand j'ai entendu ça, j'ai dit je le veux. Bon, il y a des moyens derrière ça, il y a du temps, il y a beaucoup de temps et c'est absolument magnifique. C'est aujourd'hui que je vous aime de et par François Morel chez Gallimard, collection Écoutez Lire. c'est ainsi que s'achève l'émission des Livres Plein les Oreilles, réalisée et animée pour vous par Clotilde Sey et très fortement aidée par l'ami Jean-Sébastien Laliberté. Merci Mathieu Boccoté et Cécile Paluzinski.